La Corne de l'Afrique est en train de bouger sérieusement. Les entités étrangères comme Washington est en net recul malgré ses efforts pour continuer à garder une main dans la région. Son échec dans la déstabilisation de l'Éthiopie et même de l'Érythrée le force maintenant à remettre en pièces donc le Soudan. Mais en attendant, la Corne de l'Afrique continue son bonhomme de chemin. Et après Djibouti et même la Guinée équatoriale, la Chine projetterait-elle de déployer également une base militaire en Érythrée? Cette semaine, le président érythréen a reçu en audience le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, à qui il a exprimé ses félicitations pour le centenaire du Parti communiste chinois, démontrant la forte vitalité du système socialiste et de la Chine, un pays dont il a témoin donc du développement et de la croissance, des réalisations de son développement économique, des contributions à la cause du progrès humain en s'engageant à rejeter l'hégémonisme et à bâtir un ordre mondial caractérisé par la justice et l'équité. Pékin soutiendra Asmara dans la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de sa dignité nationale, dans l'opposition aux ingérences extérieures et aux sanctions unilatérales et dans l'exploration des voies de développement adaptées à ses conditions nationales et soutenues par son peuple. Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec l'Érythrée pour faire de l'amitié entre les deux pays une force motrice de la coopération économique, transformer les riches ressources naturelles de l'Érythrée en un avantage en matière de développement et l'aider à renforcer sa capacité autonome de développement et à accélérer son processus d'industrialisation. Les deux parties donc ont également échangé des points de vue sur la situation dans la Corne de l'Afrique. Pour le président érythréen, la clé du règlement des conflits en Afrique est de veiller à ce que les pays de la région puissent conserver leur indépendance, leur unité et leur coopération et qu'ils puissent s'engager conjointement en faveur de la stabilité et du développement économique, créant ainsi des conditions favorables à la paix et au développement régionaux. Il a réfuté la soi-disant rhétorique du piège chinois de la dette, soulignant que la Chine ne s'est jamais immiscée dans les affaires intérieures des autres pays et est un véritable partenaire indispensable au développement de l'Afrique. Il s'attend à ce que la Chine joue un rôle plus important dans le processus de paix et de développement de l'Afrique. Wang Yi a dénoncé que certains grands pays en dehors de la région ont utilisé la Corne de l'Afrique comme une arène pour des enjeux géopolitiques, provoquant des turbulences et des conflits fréquents, compromettant gravement la paix et la stabilité régionale et ralentissant le développement et la revitalisation régionaux. Le message est assez clair, la Corne de l'Afrique est sous le viseur de Washington et aucun pays de cette région d'Afrique n'est prêt à courber les Chines devant les États-Unis. D'ailleurs, Washington accumule les échecs et opte pour un changement radical de stratégie. Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain Joe Biden tente de renforcer l'intérêt des USA dans la Corne de l'Afrique, mais depuis 2021, Washington a déjà nommé deux envoyés spéciaux pour la région. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines Molifi et le nouvel envoyé spécial des États-Unis dans la Corne de l'Afrique David Satterfield ont entamé donc ce lundi 17 janvier une tournée dans trois pays dont deux situés en Afrique, l'Éthiopie et le Soudan. L'information a été rendue publique par un communiqué de presse publié par le département américain le vendredi 14 janvier. Cette visite de 4 jours servira, selon le communiqué, à mobiliser du soutien en faveur de la mission des Nations Unies au Soudan. Il intervient surtout dans un contexte difficile dans les deux pays marqués par une grande instabilité politico-sécuritaire dont Washington est derrière. À Khartoum, la capitale soudanaise, les deux officiels rencontreront à cet effet des militants pro-démocratie, des organisations de femmes et des jeunes, de la société civile, l'armée, la classe politique, afin d'accentuer les pressions pour faire plier le Soudan. Alors qu'il représentait donc la partie civile au pouvoir, la démission du 2 janvier dernier du Premier ministre Abdallah Hardock a donné l'entièreté du pouvoir aux militaires quelques semaines après sa détention en résidence surveillée, ce qui voulait absolument éviter Washington. Le nouveau pouvoir donc militaire rejeté par une partie de la population entraînée dans une pseudo-révolution de couleur s'est inscrit dans une logique de répression des manifestations dans le pays, déclenchant ainsi l'ire de la communauté internationale. Pourtant, une répression bien pire que celle au Soudan est souvent observée dans les pays européens, notamment en France, et pourtant cela n'a pas provoqué l'ire de la communauté internationale. La visite en Éthiopie, quant à elle, intervient une semaine après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président américain ont eu des échanges téléphoniques sur la situation dans le pays. Pour rappel, le gouvernement fédéral a combattu les rebelles du TBLF, donc qui planifiaient une déstabilisation complète du pays. De plus, il s'est avéré que les rebelles recevaient l'appui de Washington et de l'ONU. Addis Abeba Molifi, secrétaire d'État assistante aux affaires africaines, tente encore une fois d'obtenir la libération des prisonniers politiques, dont des rebelles, donc du TPLF évidemment, le rétablissement de l'accès humanitaire afin de réapprovisionner en armes et en vivres les rebelles. Les autorités d'Éthiopie ont d'ailleurs initié un dialogue national de réconciliation et libéré les principales figures de l'opposition qui étaient encore en prison. Mais ce n'était pas une demande venant de Washington, c'était une initiative entièrement éthiopienne. Les États-Unis œuvrent pour reprendre le contrôle qu'ils perdent dans la Corne de l'Afrique, mais l'arrivée des Russes, des Chinois et des Iraniens est la volonté des pays de la région de la Corne et même de toute l'Afrique. De rester soudés et de préserver leurs souverainetés respectives continue de mettre en échec la vieille politique hégémonique et néocolonialiste des États-Unis. Dans le Zoom Afrique d'hier, nous avons brièvement évoqué les avancées spectaculaires de l'armée malienne dans la sécurisation du pays, alors que les médias mainstream tentent toujours de se focaliser sur les élections qui doivent impérativement s'organiser le plus tôt possible pour rester dans le cadre de la fameuse démocratie à l'occidentale. Ils omettent de montrer le travail qu'est en train réellement d'abattre le pouvoir en place et l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. La grande manifestation de ce 14 janvier devrait donc mettre à la puce à l'oreille du haut monde entier et savoir que les médias mainstream mentent ouvertement lorsqu'ils tentent de faire passer le gouvernement malien pour de simples vulgaires militaires qui ne veulent pas se passer du pouvoir. Bref, ne nous attardons pas sur ces médias mensonges dont le vrai visage est dévoilé au grand jour. Les avancées de l'armée malienne sont impressionnantes. Les militaires ont pu apporter des résultats positifs en si peu de temps que c'est une honte pour les médias mainstream justement de mettre ce genre d'infos aux yeux de tous. Le numéro 2 de la Katiba Massina, donc Ousmane Sidibé Dibobala, a effectivement été tué par l'armée malienne lors d'une offensive effectuée le 12 janvier dans le centre du pays, comme l'ont annoncé dimanche les FAMA sur leur site officiel. Les FAMA, donc dans leur offensive contre les groupes armés terroristes, ont procédé donc ce 12 janvier à des frappes aériennes dans les zones de Sama-Soso et Logori, dans le cercle de Bangkas, dans le centre du pays, ayant fait effectivement plusieurs morts, dont le numéro 2 de la Katiba Massina. Dans le cadre de ces manœuvres offensives, l'opération Keletigi a également procédé samedi à la destruction de deux bases logistiques terroristes dans la localité d'Alatona, toujours dans le centre du pays. Ces frappes aériennes interviennent dans un premier temps, après les sanctions imposées par la CEDEAO et la réponse de Bamako en optant pour le principe de réciprocité. Mais il y a plusieurs points, évidemment, qui interviennent dans le renforcement donc, de l'armée malienne. La récupération de la souveraineté du ciel malien, l'éloignement et le blocage des opérations de la MINUSMA et de Barkhane, et aussi le rapprochement avec d'autres puissances telles que l'Algérie, la Russie et aussi l'Iran. Le fait est que les frappes aériennes de l'armée malienne et l'avancement des FAMA montrent effectivement la vraie capacité des soldats maliens, mais cela montre que l'ancien réseau de renseignement français a enfin été démantelé et qu'un nouveau réseau s'est installé, évidemment, beaucoup plus fiable et bénéfique pour le Mali. Et cela ne passe toujours pas au travers de la gorge de l'Élysée. Un autre fait apparaît donc, c'est celui des quatre soldats Barkhane blessés dans l'explosion d'un engin explosif improvisé au nord du Burkina Faso. Et dans un communiqué, l'armée française a annoncé que quatre militaires français ont effectivement été blessés, dont un brièvement après qu'un engin explosif improvisé a touché leur véhicule au Burkina. Donc, alors qu'il sortait de l'aéroport de Wahigouya. Donc, et selon le communiqué, les victimes ont été transportées d'urgence vers Gao, au Mali, pour y être soignées. L'explosion n'est pas encore revendiquée. Est-ce un false flag? Pourquoi Barkhane patrouille dans cette zone? Tenterait-il de remettre en place un scénario comme les États-Unis l'ont fait au Niger avec l'embuscade de Tongo Tongo? Ou comme le disent certains médias, la France chercherait-elle à transformer le conflit avec le Mali en une guerre contre le Sahel? C'est ce qui était sous-entendu donc dans les propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lorsqu'il a déclaré que la situation au Mali et au Sahel est une affaire africaine et européenne et ce n'est plus une affaire franco-malienne. La France voit qu'elle ne fait pas le poids, même en forçant la CEDEAO à mettre la pression maximale sur le Mali, peut-être en échange de quelques miettes que Paris jettera en Afrique de l'Ouest, le Mali dans son entièreté ne cède pas Au contraire, le Mali avance. Et plus personne ne peut l'arrêter. D'ailleurs, dans l'article suivant, nous verrons ensemble que la CEDEAO s'est bel et bien fissurée et que ceux qui regardaient le Mali de haut courent maintenant après lui. Après l'erreur fatale de la CEDEAO qui a préféré opter pour un régime de sanctions à l'occidental plutôt qu'à une décision africaine, il est clair que les regrets s'affichent de plus en plus, surtout après la manifestation historique du peuple malien du 14 janvier, qui pour rappel s'est compté en millions de Maliens dans les rues et non en milliers, comme le disent certains médias. La CEDEAO transpire et se rend compte qu'évidemment le Mali sort gagnant en récupérant sa souveraineté et que ce sont les autres pays voisins et autres entités qui payent les conséquences de ce régime de sanctions. Tout d'abord, il est clair maintenant que la France est tellement en panique face au Mali qu'elle n'a pas hésité un seul instant à se mettre à nu devant tout le monde. L'attitude flagrante de l'Élysée se montrant derrière la CEDEAO apparaît dans tous les médias du continent africain. De plus, sa tentative ratée de rallier le Conseil de sécurité de l'ONU l'a mise dans une position d'humiliation sans précédent suite au veto de la Russie et de la Chine. Bamako s'est rendu en Guinée et en Mauritanie pour pouvoir, en un sens, contourner les sanctions qui touchent le peuple malien. Et visiblement, la Guinée a accepté de rester solidaire au Mali et la Mauritanie est encore sous la pression. Le Sénégal est déjà en train de se taper la tête contre le mur, donc en voyant les effets des sanctions contre le Mali, alors que des manifestations ont eu lieu donc le 14 janvier au Mali pour protester contre les sanctions de la CEDEAO. La communauté malienne établie au Sénégal s'est également mobilisée à Dakar autour des opérateurs économiques qui dénoncent les restrictions sur les échanges commerciaux entre les deux voisins. Et selon certains experts, le Mali est un pays enclavé qui trouve un débouché maritime vers les autres pays. Le port de Dakar vit à plus de 50% des produits qui doivent aller vers le Mali. La fermeture des frontières impactera donc Dakar et il en va de même pour la Côte d'Ivoire qui vit au bétail malien. Si la situation perdure, le kilo de viande risque d'augmenter en Côte d'Ivoire. Alors que se passe-t-il réellement? Qu'a fait la CEDEAO? Le Bénin, qui est l'un des quatre pays membres de la CEDEAO au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a brillé et par son absence lors de la dernière réunion de l'organisation continentale. La réunion visait évidemment à trancher sur le soutien ou non de l'Union africaine aux sanctions imposées par la CEDEAO au Mali. Dans son communiqué final publié dans la nuit du dimanche 9 janvier au terme de son sommet sur la situation qui prévaut au Mali, la CEDEAO a entériné de nombreuses et lourdes sanctions économiques et diplomatiques contre le pays. Dans sa logique de resserrer les taux contre les autorités maliennes, la CEDEAO a invité l'ONU et l'Union africaine à appuyer ces sanctions. Bref, certains médias parlent même que la CEDEAO pense à changer de fusil d'épaule et d'adopter un autre comportement face au Mali. On a l'impression que la France, qui est en panique, fait n'importe quoi et est prête à détruire tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'il le faut, mais a absolument gagné la bataille déjà perdue d'avance contre le Mali. Le soulèvement populaire qui a eu lieu au Mali ce 14 janvier, surtout celle prévue pour le 22 janvier et les opportunités du Mali de contourner les sanctions, installe un sacré malaise au sein des instances internationales et surtout au sein de l'Élysée. Ce qui fait peur aux Occidentaux en premier sur le continent africain, c'est l'effet domino qui s'installe assez rapidement. En voyant le Mali qui se libère de ses chaînes, la Centrafricaine également, l'Éthiopie qui tient tête aux Américains et surtout les alliances intra-africaines qui se mettent en place et les soulèvements multiples des populations contre l'impérialisme, c'est clair, l'Occident a de quoi trembler. Avec ça, il est clair que les Occidentaux sont sévèrement en train donc de trembler et qu'ils sont en train de prendre donc des décisions irréfléchies et qui empirent leur situation. D'un autre côté, le peuple malien est enfin écouté et c'est ce qui importe aujourd'hui. La libération du Mali entraînera la libération de l'Afrique et ce n'est qu'une question de temps. Approuvé en décembre 2018, le projet d'électrification rurale et d'accès à l'énergie dans les zones sous-desservies au Cameroun devrait démarrer cette année 2022, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. 2022 est une année charnière qui correspond à la revue à mi-parcours du projet, mais également au démarrage effectif de la phase pilote de réalisation des branchements à travers le fonds Revolving qui va concerner les zones périurbaines et urbaines. Opération qui vise à terme la réalisation de 163 000 branchements sociaux. Le Minet présidait la 5e session du comité de pilotage de ce projet qui vise à électrifier 687 villages dans l'extrême nord, le nord, Adamawa, est, sud-ouest et nord-ouest. Selon le ministre, l'année en cours va consacrer le paiement des indemnisations et le démarrage effectif des travaux d'électrification rurale, notamment dans les régions de l'extrême nord et de l'est. Le PERAS est le fruit de la coopération entre le Cameroun et ses partenaires techniques et financiers. Le projet a déjà bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'un montant d'environ 85 milliards de francs CFA en vue notamment de l'électrification d'environ 417 localités sur les 687 villages visés et la réalisation d'environ 120 000 branchements à l'horizon 2025, précisément dans les régions de l'extrême nord, le nord, l'est, donc le nord-ouest et encore le sud-ouest. En Côte d'Ivoire, le secteur bancaire a enregistré une croissance de 15% entre 2020 et 2021. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, dans un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de décoration des membres de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Selon le responsable, le total bilan du secteur bancaire ivoirien a atteint 16 983 milliards de francs CFA l'année dernière, soit 29,3 milliards de dollars contre 14 727 milliards de francs CFA en 2020, soit donc 25,4 milliards de dollars. Cette situation coïncide avec une amélioration des performances macroéconomiques du pays, notamment une reprise de la croissance de 2% en 2020 et à une estimation de 6,5% en 2021. Pour les autorités ivoiriennes, cette bonne performance est attribuable en partie aux banques ivoiriennes qui ont soutenu les importants investissements réalisés, notamment dans les secteurs sociaux et dans les infrastructures économiques sur la période, donc en accordant des financements. Alors que le pays est en pleine relance de son économie après la pandémie de Covid-19, Adama Koulibaly a indiqué que l'État espérait un soutien à l'activité économique encore plus important cette année de la part des banques ivoiriennes. Au Sénégal, le pont de Foundiougné va jouer un rôle majeur dans le plan de désenclavement de la Casamance. Son opérationnalisation devrait intensifier les flux humains et commerciaux entre le Sénégal et la Gambie. Le pont à péage, donc Foundiougné, dans la région de Fatick, frontalière avec la Gambie, a donc été ouverte à la circulation ce dimanche 16 janvier. Ce projet, financé à hauteur de 41,4 milliards de francs CFA par Exim Bank of China et l'État sénégalais, a été exécuté par China Enan International Cooperation Group. Érigé sur un linéaire de 1600 mètres pour 28 mètres de hauteur contre 1300 mètres initialement annoncé, ce pont, qui est actuellement le plus long du pays, enjambe le fleuve Saloum et il sert de raccourci pour atteindre la région de la Casamance ainsi que pour se rendre en Gambie voisine. L'infrastructure qui offre donc une liaison routière directe entre les localités de Dakonga et Foundiougné devrait aussi remplacer les embarcations qui assurent quotidiennement le transport entre les rives via le fleuve. Elle constitue une option de mobilité durable qui permettra de désenclaver cette zone insulaire. Et de plus, elle permettra le rétablissement de la route nationale numéro 6 au niveau du fleuve Saloum pour augmenter la fluidité de la circulation sur les routes numéro 1, numéro 4 et numéro 5. Inclus dans le programme gouvernemental PSE, l'ouvrage, dont les travaux avaient démarré en février 2018, fait partie intégrante de la feuille de route établie pour désenclaver les localités de Casamance. Le Kenya et la Hongrie ont paraphé ce lundi 4 nouveaux accords bilatéraux dans les domaines de la santé, l'éducation, l'eau et la diplomatie. L'information a été rendue publique par la présidence kényane via un communiqué de presse publié sur son site internet. Au plan sanitaire, les deux pays envisagent de renforcer les capacités des ressources humaines, d'échanger leurs informations et de collaborer dans la prévention des maladies, la Covid-19 y compris. Concernant l'éducation, le nombre d'étudiants kényans recevant des bourses bourse du gouvernement hongrois passera désormais de 100 à 200 et les deux partenaires ont également convenu de la formation des diplômes et de l'échange d'informations dans ce secteur. Le dernier accord concerne la gestion des eaux usées et d'autres aspects connexes. La signature de ces accords s'inscrit dans le cadre d'une visite de 4 jours du chef de l'État hongrois et selon les autorités kényanes, la Hongrie a déjà soutenu son partenaire est-africain à hauteur de 50 millions de dollars dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, l'eau, l'éducation et la santé. Dans son intervention lors du point de presse qui a suivi la signature des accords, le président kényan, donc Uhuru Kenyatta, a exprimé le désir d'agrandir la coopération commerciale avec la Hongrie grâce notamment à une plus grande implication du secteur privé. Il a également annoncé son intention de mettre en place une mission diplomatique kényane en Hongrie tout en appelant son partenaire à œuvrer pour débloquer l'accord de partenariat économique entre la communauté de l'Afrique de l'Est et l'Union européenne. Rappelons que le Kenya veut atteindre l'industrialisation et devenir un pays à revenus intermédiaires et compétitifs d'ici 2030. Et pour ce faire, les autorités ont mis sur pied un processus hautement participatif, consultatif et inclusif des parties prenantes qui a abouti à l'élaboration du document Kenya Vision 2030.